Vous êtes sur RTL.
Prise.fr. Les maladies de l'hiver sont déjà là, alors pour s'en protéger, voici les 4 gestes à adopter. Lavez-vous les mains régulièrement, toussez ou éternuez dans votre coude pour garder les mains propres, utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le à la poubelle, portez un masque jetable lorsque vous êtes malade pour ne pas contaminer votre entourage, surtout les personnes fragiles et les jeunes enfants. Bel hiver à tous.
RTL soir jusqu'à 20h,
on refait le monde, Vincent Parisot sur RTL.
Et on refait le monde avec la parité parfaite d'un côté. C'est Carole Barjon, éditorialiste politique à l'Obs. Bonsoir Carole.
Bonsoir Vincent.
Et Rokhaya Diallo, journaliste et réalisatrice. Bonsoir Rokhaya.
Bonsoir.
Et face à ces dames, Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Bonsoir Jean-Christophe.
Bonsoir.
Et on ne vous le présente plus, Olivier Mazerolle.
Bonsoir.
Éditorialiste
ici même. On est face, mais on n'est pas forcément hostile.
Hein. Non. Bah, c'est ce qu'on va voir, en tout cas. Je pense qu'on sera assez d'accord, en tout cas, pour parler tout de suite de la mobilisation. On a tellement annoncé cette journée du 5 décembre, hein, on en parle depuis des semaines. Alors, il y avait du monde, 510 000 personnes en France, chiffre communiqué par les préfectures et les forces de l'ordre, et puis 40 500 personnes exactement, ça c'est un chiffre du cabinet indépendant Occurrence.
À Paris,
excusez-moi, oui, à Paris pour ce dernier chiffre. Ce qui paraît comme ça, j'allais dire... Peu vis-à-vis des images que l'on avait, mais qui sont parfois trompeuses. Vous y étiez, vous, dans la manifestation, Rokhaya Diallo ?
Moi, j'y étais, j'avoue, je suis assez surprise du chiffre. Alors après, je ne suis pas très, très douée pour compter. Mais très honnêtement, d'expérience de manifestation, j'ai rarement été aussi dans un endroit où on était aussi serré. Enfin, vraiment, au départ de la gare de l'Est, c'était très impressionnant. On a stagné très, très longtemps parce que le monde était trop conséquent pour qu'on puisse vraiment avancer. Du coup, c'est vrai que je m'attendais à un chiffre plus important et j'ai vu beaucoup de monde, beaucoup de générations. Après, c'est vrai que c'était plus fluide, mais vraiment le point de départ était très très long et très fourni. Donc
bon, on va pas de toute façon évidemment remettre en cause.
Non, bien sûr que non. C'est juste ça que j'ai ressenti, ce qu'on observe en fait, et voilà, comme quoi il peut y avoir un décalage.
Cela dit, si on est à 500 000, entre 500 000 et 600 000 personnes en France, ça fait quand même du bon. Qu'en dites-vous, Jean-Christophe Buisson ?
Ouais, moi je suis pas sûr que ça m'impressionne pas plus que ça, pour deux raisons. D'abord parce que je pense que s'il y a moins de monde qu'on laisse compter, c'est que tout le monde avait bien compris que c'était le début de quelque chose. Et que je pense que la mobilisation, elle va durer.
Vous voulez dire qu'ils en gardent sous le pied ?
Exactement. Et je pense que d'abord, il y a des gens qui eux-mêmes ne pouvaient pas venir manifester pour des raisons pratiques, parce qu'il n'y a pas les moyens de venir. Mais je pense qu'ils en gardent sous le coude. D'ailleurs, comme par hasard, en milieu de journée, on annonce que ça dure au moins jusqu'à mardi. Donc ça va s'étaler. Donc si on mettait le paquet le premier jour, ça ne servait à rien.
Je peux vous faire écouter ce que disait il y a quelques minutes ici même le patron de Force Ouvrière, Yves Verrier.
Les adjectifs sont multiples, massives, inédites depuis très longtemps, jamais vues pour beaucoup de militants, parce que on démarre très très haut, hein. On va être entre 500 000 et 1 million aujourd'hui à avoir défilé dans les rues, partout en France. J'avais dit qu'il fallait donner un grand coup dès le départ parce que c'est la dynamique qu'on donne, c'est-à-dire que, y compris ceux qui pouvaient hésiter, vont peut-être s'y associer demain. La grève durera ce que le gouvernement veut qu'elle dure.
Bon, il dit que c'est un bon début, voilà.
Bah, dans la mesure où ce qu'on a vu aujourd'hui, ça n'est pas qu'une manifestation contre la réforme des retraites, et pour cause, puisque à ma connaissance, on n'a toujours pas le texte, donc on manifeste contre quelque chose qui n'est pas encore fixé, donc c'est pas du tout la même chose qu'à l'époque de Juppé, où on demandait le retrait d'un texte qui existait, qu'on avait lu et à peu près compris, alors que là, aujourd'hui, je crois que le gouvernement lui-même n'est pas sûr de son fait, puisqu'il y a un premier rapport en début de semaine, puis Édouard Philippe ou Macron qui interviendront ensuite. Donc on a bien vu que cette manifestation, c'était pas une manifestation contre la réforme des retraites, c'est une manifestation contre Macron, contre le gouvernement, donc qui agrégeait d'autres gens, et j'y inclus les Black Blocs, qui sont absolument pas là pour la réforme des retraites.
C'est pour ça que vous dites ça m'impressionne pas plus que ça.
Parce que vu le nombre de gens qui ont l'air d'être hostiles à Macron, ça me paraît pas gigantesque.
Carole Barjon, du monde ou pas de monde ? Oui.
Si, enfin, je veux dire, c'est quand même une mobilisation importante. Ça faisait longtemps. Enfin, souvenez-vous quand même les réformes de la SNCF, etc. Bon, les syndicats ont eu de la peine à mobiliser. Mélenchon a appelé à la convergence des luttes. Il y a rien eu. Et ces réformes sont passées. Du côté des enseignants, par exemple, on sait bien que toutes les dernières manifestations d'enseignants, il y avait très peu de monde. Généralement, il y avait très peu de grévistes. Là, les enseignants sont quand même mobilisés massivement. Donc, même si c'est pas l'apocalypse, qu'on avait tendance à décrire les jours précédents.
Il y a de quoi redonner le sourire au syndicat.
Il y a quand même du monde, ouais. Donc ça a des conséquences.
Olivier Mazerolle.
Oui, d'abord, il faut se souvenir quand même que dans tous les grands mouvements, en général, de grève et de manifestation, ont été en grandissant. La première manif n'a jamais été la plus importante dans l'histoire des manifestations qui se succèdent les unes après les autres. Hein. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, en effet, c'est qu'il y a une maturation qui va s'opérer. Soit, en effet, une grande partie de l'opinion publique va considérer que bon, l'avertissement a été lancé et que maintenant, le gouvernement doit en tenir compte et puis on va voir ce qu'il a à dire. Soit, au contraire, va penser qu'effectivement, maintenant, il faut enfoncer le clou et que c'est bien Emmanuel Macron qu'on vise et que, par conséquent, il faut l'affaiblir durablement et le mettre dans une situation où il ne peut plus réellement gouverner, en tout cas pas à sa guise. Voilà.
Vous voulez dire que finalement, tout va se jouer dans les prochains jours.
Et lundi, effectivement, ça va être le départ d'une nouvelle étape. Il va falloir s'organiser durablement, peut-être.
N'allez pas trop vite en besogne, parce que justement, on va en parler de ce qui va se passer désormais et peut-être jusqu'à jeudi que le Premier ministre...
Jusqu'à
dorénavant, tiens. C'est une bonne fin. À tout de suite.
On refait le monde dans RTL Soir.
Vincent Parisot.
Chaque année, les sauveteurs en mer secourent plus de 35 000 personnes sur les plages comme au large. Ces 8 000 bénévoles sont prêts à mettre leur vie en jeu 24 heures sur 24 pour sauver la vôtre. Pour qu'ils continuent à mener leur mission, ils ont besoin de vous. On a tous 1000 raisons de soutenir les sauveteurs en mer. Aidez-les dès maintenant, faites un don sur jesoutiens.snnsmm.org.
On refait le monde dans RTL Soir.
Vincent Parisot.
Avec Rokhaya Diallo, Carole Barjon, Jean-Christophe Buisson et Olivier Mazerolle. Et évidemment, on est le 5 décembre au soir. On fait le bilan de cette journée d'action et de manifestation contre le projet de réforme des retraites. On a parlé de la mobilisation. Maintenant, voyons comment peut-être le gouvernement peut sortir de ce guépier. Nous ne calerons pas. Voilà ce que disait ce matin Gilles Legendre, le patron des députés de La République En Marche. Et alors écoutons maintenant Stanislas Guérini. Il était tout à l'heure délégué général de La République En Marche.
Il est toujours.
Oui, non mais il était tout à l'heure à ce micro.
Trois quarts des Français sont favorables à la mise en place d'un système universel de retraite.
Et en même temps, une très large majorité soutenait la grève aujourd'hui.
C'est vrai, c'est le paradoxe qu'on voit, qu'on a vu aussi dans les mouvements précédents. Il y a de l'inquiétude. Il y a des colères parfois différentes que celles qui concernent la mise en place du système de retraite. Mais je pense qu'il est important de rappeler que le système qu'on souhaite mettre en place, c'est un système juste. Et parce qu'on est convaincu de la justice de ce projet, oui, on a envie de le porter au bout.
Voilà, c'est un système plus juste, en gros, nous dit Stanislas Guérini. C'est le credo du gouvernement pour les prochains jours, d'après vous ?
C'est-à-dire que tout le monde avait intégré ça, ou le croyait en tout cas. Le problème du gouvernement, c'est que ce qui avait été présenté comme une réforme qui amenait beaucoup plus d'équité et de justice, maintenant les gens ne le croient plus.
Et pourquoi ils ne le croient plus ?
Ils soutiennent éventuellement une réforme de retraite, parce que les gens ne sont pas stupides, ils savent très bien que comme on vit plus longtemps, il faut probablement réformer les retraites, et notamment pour qu'elles soient financées. Mais ça ne veut pas dire qu'ils approuvent le système par points qui inquiète jusqu'à présent, et peut-être jusqu'à ce que le gouvernement donne des précisions. Mais l'anxiété, elle venait aussi de l'inconnu.
Alors, comment le gouvernement peut sortir de ce guépier, et quand, disent aujourd'hui les usagers, par exemple, de la SNCF, quand pourrais-je avoir de nouveau un train sans m'interroger de matin au réveil ?
À mon avis, le gouvernement sort du guépier quand il sortira du guépier, quand il dira la vérité. Il a dit la vérité en disant que le système actuel est injuste et qu'il fallait le réformer, et là-dessus, je crois que tout le monde est à peu près d'accord, mais il n'a pas dit la vérité quand il a dit que tout le monde y gagnerait. Parce qu'en fait, tout le monde y perdra. Pour le rendre plus juste, tout le monde, ou presque.
Comment voulez-vous faire passer une réforme en disant tout le monde y perdra ?
Bien sûr, mais c'est pas mon problème, c'est son problème. Mais du coup, l'impression aujourd'hui, c'est que oui, il faut changer le système, mais si c'est pour faire un système où tout le monde perd, non.
Et Jean-Paul Delevoye avait dit qu'il y aura des gagnants et des perdants.
Mais il y aura très peu de gagnants et beaucoup de perdants. Mais s'ils avaient dit ça dès le début en disant on fait une grande réforme, parce que j'ai été élu pour réformer de manière systémique tout ça. ça serait passé. Après, il y a eu la crise des gilets jaunes qui a quand même interrompu peut-être le processus. Si le processus il avait lancé tout de suite, je pense que ça passait. Aujourd'hui, ça n'est plus possible parce qu'il y a eu trop d'affaires entre-temps qui ont miné le climat social.
Olivier Mazerolle.
Jean-Paul Delevoye, il a dit il y aura 60% de perdants et 40% de gagnants. Mais simplement,
les gagnants,
oh, mais il a dit ça en septembre. Mais les gagnants, ce sont ceux qui sont les plus désavantagés aujourd'hui. Bon, cela dit, le problème du gouvernement, c'est un, il n'a aucune confiance, et il a tellement cafouillé qu'aujourd'hui, plus personne ne lui fait confiance dans ce qu'il annonce, et il était incapable d'expliquer, même si tout le monde dit qu'en effet, il faut retoucher le système actuel parce qu'il n'est pas juste, il était incapable d'expliquer pourquoi il vaut mieux changer carrément de système plutôt que d'améliorer le système actuel, et qui aurait rassuré certainement beaucoup de personnes. Et maintenant, pour faire passer la pilule, eh bien, il faut qu'il trouve une tactique, quelque chose qui frappe l'imagination et qui peut-être pourrait lui ramener des syndicats à ses côtés. Voilà.
Mais, vous pensez à la CFDT.
Oui, mais vis-à-vis de l'opinion publique, à mon sens...
À la CFDT, ce qui pourrait ramener la CFDT, c'est de renoncer, j'allais dire, à l'autre aspect de la réforme, c'est-à-dire ramener les comptes à l'équilibre en 2025.
Il y a peut-être une idée là-dessus, c'est-à-dire de faire passer la réforme tout en précisant que le nouvel organisme chargé de gérer la retraite va devoir s'attaquer rapidement, dans un délai prescrit par le projet de loi, à la question budgétaire.
Et donc refiler la patate chaude aux syndicats qui seraient peut-être à la tête de cet organisme, ou en tout cas co-responsable de cet organisme.
Rocaille Diallo, pourquoi d'abord vous êtes allé manifester? C'est-à-dire, est-ce que c'est contre la philosophie de la retraite à points? Et d'après vous, comment le gouvernement peut s'en sortir? Parce que c'est aussi l'idée.
Bah, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un déficit de confiance manifeste. Et c'est pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Jean-Christophe Buisson par rapport au fait que c'était une manifestation anti-Macron, je pense que c'est plutôt une manifestation contre le fait que beaucoup de personnes ont le sentiment que ce qui fait l'essence du système social français est en train d'être démantelé peu à peu. Il y a vraiment l'idée d'une perte d'identité par rapport à ça, par rapport à ce qui est important. Et c'est vrai qu'on parle d'injustice, il a été évoqué le fait que certaines personnes fragilisées seraient protégées. On a bien vu que l'Institut de la Protection Sociale, lorsqu'il a évoqué les mères de famille qui avaient eu en fait effectivement des enfants, elles perdraient beaucoup d'argent à la retraite. On peut parler aussi des enseignants. Je pense que c'est important de rappeler que les personnes qui sont des enseignants aujourd'hui, des enseignants et des enseignantes, font le choix d'aller dans le service public alors que ce sont des personnes qui sont diplômées du supérieur en renonçant à un salaire conséquent. La compensation de cette renonciation, c'était aussi ce système de retraite. Donc on ne peut pas demander à des gens de s'engager en faisant cours avec un deal et finalement en cours de route changer de deal. Donc je pense qu'il y a plein de choses comme ça qui
voilà, et c'est notamment un argument sur la question cruciale des régimes spéciaux. Bah oui, alors on va y venir dans un instant. Est-ce vraiment la fin annoncée des régimes spéciaux, cette réforme? À tout de suite.
On refait le monde dans RTL Soir avec Vincent Parisot. RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde. Vincent Parisot.
Avec Rocaille Diallo, Carole Barjon, Jean-Christophe Buisson, Olivier Mazerolle. On en arrive, j'allais dire, à la question peut-être à 100 000 $ dans cette histoire. Est-ce vraiment la fin des régimes spéciaux que ce projet de réforme? Je dis ça parce que, écoutez, Christophe Castaner, ce matin, chez nos amis de BFM, évoquait le régime spécial des policiers.
C'est pas un régime spécial. C'est un régime qui reconnaît la particularité de ce métier.
Voilà.
On n'est pas policier jusqu'à 62 ans. Aujourd'hui, il y a un âge anticipé de départ. Et donc, il nous faut maintenir ce système anticipé de départ.
Il sera maintenu.
Il sera maintenu pour prendre en compte la dangerosité de ce métier.
Bon, c'était pas ce matin, c'était hier, dont acte, mais pour le reste, sur le fond, c'est la même chose. Donc on dit pas régime spécial,
on dit particulier.
On dit régime particulier.
C'est tout à fait différent.
C'est un cours de synonyme.
On aurait pu dire spécifique.
C'est-à-dire, est-ce que là, c'est le début d'un commencement de revirement, d'après vous, Jean-Christophe?
Ça ressemble à une stratégie, parce que Jean-Michel Blanquer a envoyé des messages auprès des enseignants, il y a eu des messages envoyés auprès des agriculteurs. La présidente de la FNSEA, d'ailleurs, a dit qu'elle n'allait pas manifester parce qu'elle avait eu des concessions, Castaner aux policiers. Donc on voit bien que c'est une entreprise de déminage catégoriel pour dire n'allez pas manifester forcément parce que vous êtes pas comme les autres, mais à force de dire à tout le monde vous êtes pas comme les autres, à la fin il y a plus de réforme.
On attend que qu'Elisabeth Borne le dise aux cheminots, remarquez. Oui. Hein.
Mais elle ne le dira pas. Mais c'est ça le cœur du problème. C'est quand j'entends Rokhaya, oui, il y a des injustices. Mais la première des injustices, et c'est pour ça qu'on changeait ce système et qu'on supprimait les régimes spéciaux, c'est l'EDF, c'est ce genre de catégories qui partent à 50, 55 ans avec une bonne retraite, etc. Et c'était ça l'injustice. Or, aujourd'hui, ceux qui sont dans la rue, les gros bataillons, c'est justement les gens de l'EDF, etc., qui manifestent en disant touchez pas à ça. Donc, à un moment donné, les gens vont s'en rendre compte qu'il y a une contradiction majeure dans ces manifestations entre ces catégories-là et par exemple les gilets jaunes qui, eux, sont dans une galère beaucoup plus importante que, encore une fois, SNCF, RATP, EDF, qui sont des catégories privilégiées, en tout cas par rapport aux gilets jaunes.
Oui, enfin, pour moi, la première des injustices, quand même, c'est la répartition des richesses. Et c'est vrai que je trouve toujours petit peu compliqué. Oui, mais bon, je veux dire, les gens d'EDF, effectivement, ont des avantages qui sont liés à leur profession, mais c'est quand même pas tant de personnes que ça. Et leurs avantages ne sont pas scandaleux. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quand même une manière d'opposer.
Ça aux paysans, hein.
Bah oui, mais je veux dire, c'est que les ennemis des paysans, c'est pas les gens de l'EDF. J'ai à un moment donné, je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu pernicieux.
C'est ceux qui gèrent, qui font en sorte que.
Ça reste quand même des classes moyennes. Le fait de confronter des gens qui sont en situation de fragilité économique avec des gens qui sont certes plus avantagés que la moyenne, mais qui ne sont pas non plus des personnes.
Oui, il ne s'agit pas de parler d'égalité, il s'agit de parler d'équité.
Oui, bah l'équité justement, elle tient compte de certaines choses. Quand Christophe Castaner, a du mal à dire que les policiers doivent avoir un régime spécifique du fait de leur emploi, eh bien c'est ça l'équité, c'est justement de ne pas aligner tout un tas de mesures à des des statuts, mais de tenir compte de certaines choses. Et quand on parle tout à l'heure, juste rapidement, on parlait de l'allongement de la durée de vie. Faut rappeler quand même que tout le monde n'a pas la même durée de vie après sa retraite. Donc c'est vrai que si on fait travailler les gens plus longuement, ça devient injuste parce que les gens qui sont ouvriers ne vont pas bénéficier pendant aussi longtemps de la retraite que des gens comme nous, par exemple, dont le métier n'est pas pénible.
Les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, c'est une question spéciale.
Mais si on parle d'équité, c'est aussi tenir compte de ça.
Bien, vite. Allez-y.
Sur les enseignants, parce que il va y avoir un problème spécifique là.
Carole Bargeon.
Je pense que ça peut faire un peu blocage parce que eux n'ont pas a priori de régime spécial. Ils n'ont pas beaucoup de primes, contrairement aux autres fonctionnaires. Et là, ça risque d'être un gros point de plugage, alors que l'éducation est en principe un secteur prioritaire pour ce gouvernement.
On s'achemine vers un régime unique, pluralisé.
Bon ben voilà. Alors, cela dit, vous voyez, à force de vous entendre parler de régime, ça me donne envie de me faire cuire une bonne côte de bœuf, sortir un plateau de fromage et une bonne bouteille. Et me demander, mais qui veut la peau des bons vivants ? On va en parler dans un instant, c'est à la une du Point, à tout de suite sur RTL.
On refait le monde dans RTL Soir,
Vincent Parisot. RTL Soir jusqu'à 20h,
on refait le monde, Vincent Parisot.
Et on refait le monde ce soir avec Olivier Mazerolle, éditorialiste à RTL, Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, Carole Bargeon, éditorialiste politique à l'Obs, et Rokhaya Diallo, journaliste et réalisatrice. Rokhaya, je ne vous propose pas un peu de ma côte de bœuf que j'ai proposé. Hein.
C'est très gentil de le proposer, mais...
Non, je prends votre part, Rokhaya.
C'est pas votre truc.
On est foutu, on mange trop.
Ah, il paraît, on est foutu, on mange trop. Autre question, qui veut la peau des bons vivants? C'est à la une du Point cette semaine avec une tribune d'Amnous Chalmani, l'une des polémistes dont refait le monde, qu'on retrouvera d'ailleurs lundi. Vous avez lu cet article, mesdames, messieurs. C'est vrai, est-ce que vous êtes de ceux qui disent il y en a marre, hein, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien manger, on ne peut plus se faire plaisir? Oui, ben vous riez, Jean-Christophe Buisson, mais
non, parce que c'est un peu exagéré, mais évidemment on est dans une société qui est de plus en plus hygiéniste, qui donne de plus en plus de consignes presque moralisatrices, sur notamment sur l'hygiène de vie, sur l'hygiène alimentaire. Mais je pense qu'on a encore la liberté de résister à ça, de ne pas obéir aux injonctions qui nous sont faites, y compris du sommet de l'État parfois. On a déjà eu ce débat sur l'alcool, sur la consommation d'alcool. On peut considérer que dans le pays de Rabelais, le pays des banquiers républicains, le pays de Édouard Herriot et Léon Daudet, le pays de Depardieu, Jean Carmet, de François Hollande, qui contrairement à Nicolas Sarkozy était un bon vivant qui adore
Jacques Chirac, bien entendu.
Non, mais c'est pour montrer que je dis quelque chose de gentil sur François Hollande.
Emmanuel Macron aime bien aussi.
C'est
taper
pas l'impression qu'il donne.
Il est mince physiquement. Le professeur David Kayat, quand même. Le grand cancérologue qui s'intéresse quand même à notre santé, hein, et il dit la vie sans gras, ça doit être long.
ça va être long, ça va être ennuyeux, la vie sans un verre de vin par jour. Mais encore une fois, c'est une question d'équilibre, de dosage, de responsabilité. Et dans notre pays, on a le sentiment, on fait pas confiance aux Français en disant, il faut vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut. En plus, on change d'avis tout le temps, comme si on n'était pas assez grand à un moment donné pour savoir que l'alcool à une certaine dose c'est dangereux, que manger du gras, bah, peut-être que ça bouche les artères. Et puis, est-ce qu'on mange pour se faire plaisir, pour donner de la joie, pour faire une communauté, ou est-ce qu'on mange pour être peser 40 kilos et faire le marathon? Et après, c'est un choix de vie personnel. Moi, ce qui me gêne, c'est quand l'État se mêle de ça, quand le gouvernement se mêle de ça.
Il l'a toujours fait, c'est-à-dire que moi,
sous Pétain, par exemple, 40.
C'est vrai.
Le Vichy qui porte bien son nom interdit la consommation d'alcool.
Mais même moi, quand j'étais à l'école primaire, c'était la promotion du lait, pour grandir, etc. Ça a toujours été le cas. Et aujourd'hui, on sait que c'est pas forcément quelque chose de positif, mais je veux dire, la santé, le fait de documenter sur les aliments, c'est quelque chose qui a toujours été propre au gouvernement et parfois avec des erreurs, et il y a des choses à peut-être repositionner. Moi, je trouve pas ça, moi je trouve que c'est un peu, enfin j'ai lu du coup l'article du Point, on dirait qu'il y a une espèce de gang de terroristes véganes qui viennent traquer les assiettes des Français qui mangent. Je veux dire, faut pas exagérer. Il se trouve
non,
que
mais
moi,
c'est parce qu'on finit par culpabiliser dans cet environnement.
Alors, c'est que vous vous sentez pas bien, moi je mange pas de viande, je pense pas que, je veux dire, si vous vous sentez coupable, c'est votre problème, mais moi je mange pas de viande. Je ne suis jamais venue en disant, en surveillant les assiettes des uns et des autres et en demandant à chacun ce qu'il avait dîné la veille. Je trouve que ce sont des choix individuels.
Tiens, je vous propose d'écouter, puisqu'on est quand même dans une émission où on parle de politique, Jean-Luc Mélenchon.
Je fais des efforts, comme beaucoup d'autres gens, pour passer à un régime alimentaire avec moins de protéines carnées. Et j'ai découvert comme ça, il y a maintenant 2 ans, le quinoa.
Ah, il a découvert le quinoa. Jean-Luc Mélenchon.
C'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle.
Parce que ça pousse au Venezuela, peut-être.
Bon, cela dit, non, c'était juste pour
Mais c'est le moment aussi de réhabiliter des vieilles pratiques alimentaires. Moi, je sais qu'en mangeant moins de viande, j'ai commencé à réfléchir à d'autres alternatives. Parce que c'est vrai que la manière dont on constitue les repas en France, c'est autour de la protéine animale. Et c'est vrai que tout d'un coup, de penser qu'il y a autre chose qu'un plat qui est centré autour de la viande ou du poisson, ça permet de réfléchir
moins
à des alternatives.
Pas de viande.
Moi, je mange pas du tout de viande, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Et après, effectivement, je trouve qu'effectivement, j'ai arrêté, mais j'ai diminué progressivement, et on trouve des solutions alternatives si on en a envie.
Olivier Mazerolle, vous la sentez, cette pression globale qui fait qu'aujourd'hui, effectivement...
Ah c'est certain.
Si on demande des frites avec la côte de bœuf, on regarde autour de soi...
Certains, un éleveur, c'est un assassin. Ouais. Voilà, on est vraiment dans la modération, le sens de la nuance, et du respect de l'autre.
Après, quand on cite Pétain, tout va bien.
Quand on mange pas de viande, quand c'est un choix personnel, je le respecte tout à fait. Qu'on veuille m'interdire, moi j'en mange pas beaucoup honnêtement, parce que je suis pas, bon voilà, c'est comme ça, mais je vais pas encore une fois interdire à quelqu'un d'autre d'aimer la tête de veau ou la côte de bœuf, voilà. Mais on a l'impression maintenant que, à force d'entendre effectivement tous ces discours, que la vie, ça consiste à attendre la mort en s'emmerdant.
Et en se disant comme ça va durer encore un peu plus longtemps. L'emmerdement va durer encore un peu plus longtemps.
Encore que c'est même pas sûr, parce que malheureusement, pour eux, il y a des gens qui suivent tous les régimes et qui meurent très tôt.
Ouais.
Bon, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de vérité scientifique absolue dans ce domaine.
Bon,
donc
après,
effectivement, c'est une question de modération, de se sentir bien. On le sent quand on a fait des excès. On n'est pas bien. Bon, et puis on sent bien qu'il y a des aliments qui nous vont mieux que d'autres. Bon, ben voilà.
Bon, c'est tout. Et puis on n'est pas obligé de suivre toutes les modes aveuglément. Mais je trouve tant, enfin bon.
Et moi, je trouve que c'est quand même une réflexion intéressante de manière générale, parce que c'est pas seulement la viande. Moi, j'ai grandi dans les années 80-90, et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de réflexion sur la nourriture industrielle. Donc, moi, j'étais vraiment la génération où on avait des petits biscuits, des goûters, etc. Et qui sont, rétrospectivement, on a mangé n'importe quoi. Et c'est pas seulement la viande, c'est de se dire que finalement, peut-être que les enfants, on peut leur proposer des choses qui sont peut-être bonnes au goût, mais qui sont pas forcément des produits avec un certain nombre de conservateurs. Donc, ça va beaucoup plus loin pour moi.
Mais est-ce qu'on est sûr de tout ça? Je vous cite encore.
Il ne faut pas exagérer dans notre sens.
Non, mais c'est intéressant ce qu'elle dit, parce que tout ça change et évolue avec le temps.
C'est toujours intéressant ce qu'elle dit.
Encore une fois, le professeur David Kayat qui dit « Bon, aujourd'hui, il faut rouler de moins en moins vite, ne plus fumer, ne plus manger trop. » En plus, on s'y perd, les uns fustigent le sucre, les autres le gras. C'est-à-dire que pendant des années, on nous a dit ah, faut pas manger de gras.
Maintenant,
on nous dit ah, faut pas manger de sucre.
C'est comme le diesel et l'essence.
Il faut du gras, mais pas trop, comme il y a le bon et le mauvais cholestérol, et le sucre, le diabète, enfin, etc. Tout ça, effectivement, mais on est des êtres. êtres humains, vous voyez.
Ça, c'est
peut-être
vrai.
Simplement
de
qu'on
tout
s'en souvienne
avec modération.
Et que tout ne va pas toujours pour le mieux.
Et Rocaille, le problème des produits industriels, si on les remplace par des produits bio, c'est que, un, les produits bio, il faut avoir les moyens de se développer. Et ensuite, on n'a pas une garantie à 100% que ce soit si bien que ça. C'est pour
mais
ça que dans le doute, je continue.
Non transformés. Ce que disent souvent les gens, c'est quand on mange quelque chose, on se demande si notre grand-mère aurait pu le manger. Tout simplement. C'est, et ça, c'est. Voilà. C'est une question simple.
Voilà. En tout cas.
Le gras, c'est la vie.
Voilà, c'est ça. Si vous savez d'où ça vient, c'est extrait de Kaamelott. Voilà. Merci en tout cas, messieurs Jean-Christophe Buisson. Mais vous restez là. Carole Barjon, Rocaille Diallo, Olivier Mazerolle, vous restez là parce que, évidemment, on n'en est pas fini. Catherine Boulet est là. C'est déjà demain. Bonsoir, Catherine.
Et rebonsoir. On s'est déjà vu tout à l'heure.
Bonsoir. Oui, mais bon, ça me fait plaisir.
Tous les soirs, on vieillit plus vite avec elle. C'est déjà demain.
C'est déjà demain. On prend 5 heures tout de suite. Qu'est-ce que vous nous conseillez de lire dans la presse demain ?
Libération. Parce qu'il y a 2 ans, jour pour jour, disparaissait Johnny Hallyday et que le quotidien s'est penché sur le livre d'or rempli par ses fans à l'église de la Madeleine. 10 000 pages noircies de messages, de lettres, de mots d'amour, de dessins. On peut y lire par exemple comme la Tour Eiffel, tu as été notre monument national de la chanson, tu es parti donner tes concerts au paradis. Des messages qui souvent reprennent les paroles de Johnny. Laquelle est la plus souvent citée à votre avis ? Un petit indice. Je veux te graver
dans mon cœur.
Ah bah quand vous la chantez c'est encore mieux maintenant.
J'ai répété hein.
Dans ma vie.
Bon, très bien, rock'n'roll.
Mais plus étonnant encore que cette masse de messages, Libé nous révèle aussi que 2 sociologues ont décortiqué, analysé, décrypté ces 10 000 mots pour essayer de définir l'élan, la ferveur qui entoure cet homme. Est-ce que c'est mystique ? Est-ce que c'est religieux ? À la Madeleine, il faut savoir que chaque 9 du mois, eh bien, certaines personnes reviennent à la date anniversaire de ses funérailles. L'article est signé Emmanuel Perret et c'est à lire demain dans Libération.
Mais on le fera. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la presse demain ?
Alors vous savez, après cette vidéo virale de Justin Trudeau filmée à son insu en train de moquer de Donald Trump en marge du 70e anniversaire de l'OTAN, eh bien moi j'avais envie de revoir les autres, les bourdes, les gaffes, les exclamations spontanées, bref, tous ces loupés que le communicant déteste. 1984, par exemple, Ronald Reagan, président des États-Unis, prononce ces quelques mots juste pour tester le micro.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous annoncer que nous allons rayer la Russie de la carte et nous commençons les bombardements dans 5 minutes.
Bon, grand sens de l'humour, voilà. Mais ça, effectivement, son patron de la com n'a pas dû apprécier que ça sorte.
Un peu plus tard. Toujours aux États-Unis, nous voilà en octobre 2016, Donald Trump est à la fin de sa campagne présidentielle et voilà que le Washington Post ressort un enregistrement de lui en 2005, en pleine conversation avec un animateur télé, sujet les femmes.
Quand t'es connu, elles te laissent tout faire. Tu peux même les prendre par la...
Bon,
j'ai pas entendu.
Et les hommes politiques français aussi ont eu quand même droit à leur sortie de route. Hein.
Manuel Valls. 2009, qui se promène dans sa ville d'Evry et qui demande à ce qu'on rajoute quand même quelques blancos, entre guillemets.
Comment ça va ?
Ça va bien ?
Ouais, belle image. Belle image de la ville d'Evry. Vous me mettez quelques blancs ? Non, contre blanc, quelques white, quelques blancos.
On comprend pas bien parce que je pense qu'il veut pas trop qu'on l'entende, mais effectivement...
Voilà, et c'était pris de loin. Pas très audible, également François Hollande qui briefait Fleur Pellerin, toute nouvelle ministre de la Culture. Il va falloir que tu tapes tous les spectacles, vous vous en souvenez sans doute. Bref, des petites phrases qui, un peu comme une chanson de Johnny, resteront plus longtemps sans doute gravées dans l'histoire que les longs discours.
Bon, bah évidemment, on va répéter notre Johnny. Merci beaucoup, Catherine Boulet. Et je vous dis pas à demain, parce que demain, c'est vendredi.
Mais c'est déjà maintenant.
Ben voilà, c'est déjà maintenant. Vous serez là, évidemment, lundi avec Thomas Soto. Bonsoir, Jean-Alphonse Richard.
Bonsoir, Vincent.
Alors, au programme de l'heure du crime.
Eh bien, ce soir, je vais vous raconter l'incroyable histoire de 271 œuvres de Picasso sorties du fond d'un garage obscur. Une enquête, 3 procès, un incroyable feuilleton judiciaire et artistique autour du plus grand peintre du XXe siècle.
À tout de suite, ce sera après les infos.